Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes plus spirituels, c'est simplement que Dieu a fait grâce. Et comme dit l'apôtre Paul, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est la prière que je fais pour chacun d'entre nous, que sa grâce ne soit pas vaine envers vous, envers moi, mais que nous puissions au maximum profiter de cette grâce, de travailler tant qu'il est encore jour. Depuis quelques émissions, nous sommes en train d'étudier un nouveau thème, « Tu aimeras ton prochain ». Nous en sommes à notre 6e émission, et avant de continuer, je voudrais que nous prions pour rendre gloire à Dieu. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour cette opportunité, merci pour nos différents partenaires qui nous soutiennent dans notre ministère pour la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent à côté de leur poste radio, à côté de leur ordinateur pour écouter ce message. Seigneur, au-delà de la personne que je suis, je voudrais qu'ils te voient toi, qu'ils t'entendent toi, Père éternel, car après tout, c'est toi seul qui as la possibilité de les sauver. Moi, je ne veux être que ton instrument. Que toute la gloire revienne seulement à toi et à toi seul. Seigneur, sauve, redresse, guéris, délivre. Fais du bien à un homme, fais du bien à une femme aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, amen. Tu aimeras ton prochain. Luc 10, versets 27 à 36. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu aimeras ton prochain. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? En d'autres termes, à qui je peux exprimer cet amour? À l'époque de Jésus, tout le monde n'avait pas la même conception du prochain. Par exemple, ceux de la tribu de Judas considéraient leur prochain que ceux et celles qui étaient descendants de Judas. Ceux qui étaient de la tribu de Ruben considéraient les prochains ceux et celles qui étaient de la même tribu. C'était un grand débat à l'époque. Voilà pourquoi ce monsieur pose la question à Jésus. En fait, qui est mon prochain? Est-ce que mon prochain, c'est seulement le juif vivant en Israël? Est-ce que mon prochain, c'est seulement celui de la même tribu, celui qui est de la même famille que moi? Est-ce que mon prochain, c'est celui qui est de la même communauté religieuse que moi? Est-ce que mon prochain, c'est celui qui est de la même race que moi? Est-ce que mon prochain, c'est celui seulement avec qui je travaille? Est-ce que mon prochain, c'est seulement celui avec qui on est toujours d'accord? C'est la question que le monsieur pose à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, voilà pourquoi la Bible, elle est valable pour les hommes de tous les âges. La Bible n'est pas démodée. Jésus-Christ va répondre à la question. Qu'est-ce que Jésus va dire? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort ou évanoui. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, c'est-à-dire un étranger, un homme qui n'a rien de commun avec ce juif, qui voyageait, qui avait d'autres préoccupations, qui avait d'autres priorités, qui avait un target, qui avait des objectifs à atteindre, étant venu là, a vu cet homme, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Contrairement au sacrificateur et au lévite, lui, en voyant cet homme, souffre à l'intérieur, il se pose des questions. il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le proche de celui qui est tombé au milieu des brigands? Maintenant, le docteur de la loi répond, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Parce que tu ne le fais pas. Nous ne devons pas chercher nos propres intérêts ou notre propre gloire, notre propre gloire. Une des caractéristiques de l'amour que nous pouvons exprimer envers notre prochain est celui de ne pas chercher notre propre intérêt ou notre propre gloire. Si cet homme qui est tombé au milieu des brigands, dans un lieu désert, dans un lieu éloigné, s'il y avait eu une foule d'hommes et de femmes qui passaient ou qui regardaient ce monsieur souffrir, et que le sacrificateur ou le lévite dont Jésus parle descendait par hasard, avait vu cette scène, ils auraient aidé cette personne. Pourquoi? Parce que ce type de personne, cet esprit pharisianique, recherche à être vu par les hommes, recherche à être mis en évidence par les hommes, recherche ses propres intérêts. Qu'est-ce que je gagne à aimer mon prochain? C'était ça le gros problème, c'était ça leur mentalité. Et aujourd'hui, ça continue, aujourd'hui même dans l'Église de Jésus-Christ. Nous ne devons pas chercher nos intérêts. Nous ne devons pas chercher notre propre gloire. Lorsque nous aimons, lorsque nous voulons aimer, ou lorsque nous pratiquons l'amour envers notre prochain, ça doit être sans intérêt. Vous donnez sans attendre quoi que ce soit en retour. Lisons dans Jean 12, verset 43. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ce sont les chefs religieux à l'époque de Jésus. Commençons au verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, c'est-à-dire en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient que les hommes battent des mains, applaudissent des mains pour eux, plutôt que Dieu, qui est invisible, mais présent, leur donne gloire. Ils aimaient que les hommes les mettent en exergue, que les hommes les mettent en évidence, plutôt que Dieu. Parce que peut-être pour Dieu, ça prend du temps, peut-être pour Dieu, ce n'est pas comme on le voudrait. Vous voyez, en fait, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils sont pleins d'orgueil. Un homme qui est orgueilleux a du mal à aimer son prochain. Surtout quand il est seul. Un peu comme l'histoire de ce brigand. S'il y avait une foule de personnes, ce pharisien qui passait, ce lévite qui passait, allait faire quelque chose. Mais comme il n'y avait personne, il n'y avait que eux deux, donc le pharisien et le monsieur blessé, ils ont dit non, c'est bon, c'est pas important. Du reste, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Du reste, c'est un pécheur. Pourquoi est-ce que je dois venir à son secours? Qu'est-ce que je gagne en allant le secourir? Toujours calculateur. Quand on aime réellement, il n'y a pas de calcul. Quand on aime réellement, on pense d'abord à l'intérêt de l'autre. Mon frère, ma sœur, si vous aimez votre femme, pensez d'abord à l'intérêt de votre femme. Si vous aimez vos enfants, pensez d'abord aux intérêts de vos enfants. Si vous aimez votre mari, pensez d'abord aux intérêts de votre mari. Ne cherchons pas d'abord notre propre intérêt. Combien d'hommes et de femmes se sont mariés par intérêt? Qu'est-ce que je vais gagner dans ma relation avec cet homme? Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer? Et on a fait pour beaucoup de mauvais choix. On s'est marié avec un homme qu'on n'aimait pas, on s'est marié avec une femme qu'on n'aimait pas, parce qu'on avait quelque chose à gagner. Ils aiment la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils aiment que les hommes applaudissent plutôt que Dieu applaudisse. Philippiens 2, verset 1, nous dit ceci. Philippiens 2, verset 1. Philippiens 2, verset 1. Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, c'est plutôt la partie qui nous intéressait. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Avant de faire quelque chose, posez-vous la question. Qu'est-ce que l'autre gagne dans ma démarche? Vous imaginez si cet homme était mort des suites de son coup, des coups qu'il a reçus, pardon. Ça aurait été une non-assistance en personne en danger. Une non-assistance à personne en danger. On aurait pu porter plainte contre le pharisien. On aurait pu porter plainte contre le lévite. Parce qu'il a vu un homme en danger, mais il n'a pas voulu le secourir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun intérêt à l'aider. C'est triste, c'est malheureux. Combien d'hommes et de femmes sont morts dans le monde? Parce que qu'est-ce que je gagne à aller secourir les autres? Combien d'hommes et de femmes se retrouvent aujourd'hui en enfer parce que des chrétiens ont d'abord regardé leurs propres intérêts? Qu'est-ce que je gagne à donner mon argent pour l'évangélisation à la radio, à la télévision, sur Internet ou soutenir un missionnaire que je ne connais même pas de visage dans un pays peut-être que je ne serais pas situé sur la carte du monde? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne à aider cette pauvre femme à traverser la rue? Je ne la connais pas. Peut-être même qu'après je ne la reverrai plus jamais. Qu'est-ce que je gagne? Non. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la Bible qui parle. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Christ regardait d'abord les intérêts des autres. Il regardait d'abord les intérêts du Père. Il regardait aussi les intérêts de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il a accepté de venir prendre une forme humaine, de souffrir, de mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Parce qu'il était d'abord obéissant au Père, parce qu'il nous aimait aussi. Arrêtons d'être égocentriques, voilà. Arrêtons d'être égoïstes. Celui qui aime son prochain n'est pas égoïste. Celui qui aime son prochain n'est pas égocentrique. Il pense aussi à l'intérêt des autres. Ceci me fait penser à un frère que je connais très bien. Sa mère spirituelle lui a présenté à une jeune dame chrétienne. On fait connaissance, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Au moment de commencer à parler mariage, le monsieur parle, ira voir sa mère spirituelle, il dira « Je suis décidé à épouser la sœur que tu m'as présentée, je la trouve bien, c'est quelqu'un de très gentil, qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur. » Et subitement, sa mère spirituelle refuse. « Non, tu n'as pas le droit d'épouser cette personne. » Pourquoi ? Elle a dit ça sur toi, elle a dit ça sur toi, elle a dit tout plein de mensonges. Pourquoi ? Parce que la mère spirituelle voulait garder son fils pour lui. Ses propres intérêts d'abord. Et ce frère me racontera même que sa mère spirituelle refusait que ce frère exerce un ministère. Elle lui a refusé toutes les portes. Elle lui a fermé toutes les portes. Aucune recommandation. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas, ou plutôt il avait une autre vision que celle de travailler avec elle. On est égocentrique, même dans l'Église de Jésus-Christ, et cela doit disparaître au milieu de nous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'est-ce que je gagne ? Considère aussi ceux des autres. Nous ne perdons pas lorsque nous investissons dans la vie des autres, parce que nous n'investissons pas pour nous-mêmes, mais nous investissons dans le royaume de Dieu, même si le frère part implanter une église à gauche ou à droite, a une autre vision, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître, qui est le chef suprême, l'autorité suprême de l'Église. Nous, nous sommes que des intendants, des administrateurs, des biens qu'il a remis entre nos mains. Si ce monsieur, ce juif qui était tombé au milieu des brigands, était entouré d'une foule d'hommes et de femmes, le pharisien qui est passé l'aurait assisté. Le lévite qui est passé l'aurait assisté. Mais nous voyons un samaritain. Culture différente, mentalité différente, qui se permet même de sortir son argent, de prendre la personne, de le mettre sur sa propre monture. Et lui, il allait à pied. Il a d'abord regardé les intérêts de la personne. Les pharisiens n'étaient pas comme ça. Les pharisiens étaient un esprit égocentrique, si je puis dire, égoïste. Tout devait être centré sur eux. Et cet esprit pharisénique existe encore aujourd'hui, même dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons faire attention, c'est pour cela que nous devons chasser l'esprit du monde. Nous ne devons pas laisser l'esprit du monde, l'esprit pharisianique, entrer dans nos vies. Qu'est-ce que je gagne ? Dès que vous vous posez la question, qu'est-ce que je gagne à aider les autres ? Sachez que c'est une mentalité du monde, un esprit pharisianique qui vous tente de vous influencer. Et nous devons faire très attention à cela. Jean 5, verset 44. Jean 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Jésus-Christ dénonce cet esprit pharisianique. Vous faites des choses parce que vous vous tirez gloire les uns les autres. Vous imaginez s'il y avait eu une foule de personnes autour de ce monsieur qui a été dépouillé et que ce pharisien, ce sacrificateur ou ce lévite avait porté de l'aide à cette personne. On aurait dit, monsieur Raphaël, le grand évangéliste, monsieur Raphaël, le grand docteur de la loi, vous savez, il a secouru une personne qu'il ne connaissait pas, hein, qui était blessée, il lui a donné de l'argent, il l'a apporté à l'hôpital, il l'a fait entrer dans sa propre voiture. Non, mais cet homme de Dieu est merveilleux. Ça serait parti d'une bouche à oreille, et puis d'une ville à une autre, d'un quartier à un autre. Et on aurait parlé de chacun d'entre eux, on aurait parlé de lui. Et c'est ça qu'ils veulent. Mais s'il n'y a personne pour rapporter ce qu'ils ont fait, Ils se disent non, 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 non. Je ne vais pas me fatiguer dans cette affaire. En fait, ils tirent, comme Jésus dit, ils tirent la gloire les uns des autres. Je connais une histoire d'un homme, d'un célèbre homme, je tais le nom bien sûr, qui allait visiter des prisonniers dans une prison et il a invité les médias. Il a acheté à manger, des vêtements, il les a invités. Et malheureusement, les médias ne sont pas venus. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, d'accord, c'est pas grave, nous allons revenir dans 2 jours pour faire les dons. Son problème n'était pas les prisonniers, son problème était d'être vu par les hommes lorsqu'il fait quelque chose. C'est ça qui régloire les uns des autres. Son problème n'est pas le malheureux, son problème n'est pas celui qui est en prison, le problème n'est pas celui qui est nécessiteux, celui qui a besoin de son aide, celui qui a besoin de son secours. Et entre parenthèses, c'est pour cela que nous ne devons compter que sur Dieu. Parce que nous ne savons pas toujours quels sont les vrais motifs quand quelqu'un nous donne quelque chose. Je referme la parenthèse. Le problème de ce monsieur était qu'il voulait être vu à la télévision et qu'on parle de lui dans les médias comme étant un grand bienfaiteur. Il ne voulait pas secourir les autres. Ce n'était pas son intérêt. Son but était d'être vu. Et c'est la même chose lors des campagnes, lorsqu'il y a des campagnes électorales. Tel député, tel ministre, tel gouverneur, tel bourgmestre vont faire des grandes actions. Le but n'est pas toujours d'assister ces personnes, mais d'être vu et d'être connu par les hommes et par les femmes. C'est pour cela que nous devons faire attention, que le Saint-Esprit nous montre ceux qui cherchent leur propre gloire, leurs propres intérêts au travers de nos vies. Jésus-Christ n'a pas cherché sa propre gloire. Jésus-Christ n'a pas cherché ses intérêts. Il a d'abord cherché les intérêts de son Père. Il a ensuite cherché les intérêts des hommes et des femmes qu'il croisait. Combien de fois nous lisons dans la Bible que Jésus même interdisait aux hommes d'aller rapporter le bien qu'il leur avait fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas la gloire des hommes. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Jésus-Christ cherchait la gloire de Dieu. Jésus cherchait l'approbation de son Père. Cherchons l'approbation du Père Céleste et non celle des hommes. Peu importe si les hommes ne vous aiment pas, peu importe si les hommes ne vous connaissent pas dans le bien que vous faites. Vous faites ce qui est convenable tout en cherchant uniquement la gloire de Dieu, tout en cherchant la gloire du Père Céleste. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, parlant de l'amour, dira ceci: la charité ou l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 5, verset 4, la charité ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. Celui qui aime son prochain ne doit pas chercher son propre intérêt d'abord, l'intérêt de l'autre. Pensez d'abord à ce que l'autre va gagner, pensez d'abord à ce que l'autre va ressentir. Et ce Samaritain a vu cela. Il a vu un homme blessé, il a vu un homme meurtri, il a vu un homme en danger, il a vu un homme qui allait mourir. Il voyageait, c'était certainement un homme d'affaires qui avait d'autres priorités. Il les a d'abord arrêtés pour secourir celui qui était en danger. Le sacrificateur, le Lévite, ils avaient aussi leurs propres intérêts, ils avaient aussi leurs objectifs, ils avaient aussi des priorités. Et ils ont vu celui qui était blessé. Ils se sont dit, non, j'ai pas le temps. Du reste, il n'y a personne ici. Qui saura que je suis passé ici ? Égoïste, il est égocentrique. L'égoïsme et l'égocentrisme ne sont pas une preuve d'amour. C'est une preuve de haine. Chercher ses propres intérêts n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve de haine. Attention. Mon frère, ma sœur. Dieu veut nous réveiller aujourd'hui en disant, quel est votre niveau d'amour pour votre prochain. Vous dites « Dieu, je t'aime », c'est une très bonne chose. Mais comment tu haïs ton frère que tu vois tous les jours, qui est dans le besoin? Il y a ceux qui ont besoin de notre aide dans les hôpitaux, en prison. Il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui attendent notre secours, que nous leur apportions le message. Peut-être que nous n'irons pas nous-mêmes, mais avec notre argent, avec nos dons, nous pourrons soutenir ceux qui apportent l'Évangile. Ne soyons pas égoïstes, égocentriques. Il y a toujours une bénédiction à donner aux autres. Il y a toujours une bénédiction à secourir l'autre. Il y a toujours une malédiction à être égoïste et égocentrique. Si ce message d'aujourd'hui vous a touché et que vous voulez demander pardon à Dieu pour ce manque d'amour envers votre prochain, c'est très simple. Baissez la tête et faites cette simple prière après moi. Et dites, Père éternel, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te demande pardon pour mon manque d'amour. Je te demande pardon pour mon égoïsme, mon égocentrisme. Je te demande pardon d'avoir cherché mes propres intérêts avant ceux du royaume de Dieu et avant ceux de mon prochain. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je crois maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles et que je prends un nouveau départ. Je m'engage à suivre Jésus-Christ dans ma voie de tous les jours. Je m'engage à aimer mon prochain comme moi-même dans ma vie de tous les jours. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, toutes choses sont devenues nouvelles. Croyez que par la foi, vous prenez un nouveau départ. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de réécouter ce message, de connaître les heures de diffusion sur votre chaîne préférée, si vous avez besoin d'avoir davantage d'informations sur notre ministère, vous pouvez nous joindre. Vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Le nom de cette émission est « Venez à Jésus ». Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine sur le même thème. Tu aimeras ton prochain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.